Avec Tracé ensemble, nous allons réentendre Delphine Denninger-Kaiser dans une méditation de l'Évangile de Pâques. L'Évangile de Marc, dans sa version courte, se termine par ces mots « Elles s'enfuirent du tombeau, tremblantes de peur, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. » Dans ces conditions, aurions-nous pu souhaiter à ces femmes de joyeuses Pâques?
Seigneur notre Dieu, avec ton Église universelle qui est aujourd'hui dans l'allégresse et fait monter un chant de triomphe, nous te louons pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais qu'en écoutant maintenant ta parole, nous éprouvions sa puissance vivifiante et qu'unis à ton Fils par ton Saint-Esprit, nous soyons réveillés de notre sommeil et passions de la mort à la vie. Amen. Nous lisons à présent dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Les femmes s'attendaient à trouver le corps de Jésus, mais elles se trouvent face à un homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Qui est cet homme? Est-il un ange? Et que renvoie-t-il de tellement effrayant pour susciter une frayeur aussi grande chez Marie-Madeleine, Marie et Salomé? Quoi qu'il en soit, ce personnage est assez mystérieux. Donc ce jeune homme est assis à droite, ce qui correspond à la formule traditionnelle pour évoquer le Christ en gloire aux côtés du Père. Ce jeune homme est également décrit comme étant vêtu d'une robe blanche, ce qui renvoie à celle que portait le Christ lors de la transfiguration. Nous assistons ici à une théophanie, c'est-à-dire à une manifestation divine au cours de laquelle a normalement lieu la révélation d'un message divin aux hommes. Ce jeune homme est donc signe de la présence divine. Sa représentation est marquée par la sobriété, car même si la robe qu'il porte est blanche, elle n'éblouit personne, pas plus que son visage d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas dans le récit de la Transfiguration. Mais bien plus que l'apparence de ce jeune homme, la tension dramatique de ce texte va s'articuler autour de deux temps forts, à savoir la présence de cet homme singulier dans le tombeau, alors que le corps de Jésus n'y est plus, et le contenu du message qu'il va délivrer aux femmes. En effet, le jeune homme parle. Il est là pour cela, pour dire une parole. Mais une parole qui n'est pas la sienne. C'est sans doute pour cela qu'il convient qu'il ne soit pas trop éblouissant, qu'il ne fasse pas trop de bruit. Car cet élément de merveilleux qu'est la présence de ce messager n'est pas destiné à enjoliver le texte, ni même à fournir une preuve externe de la réalité de l'événement, mais il a une profonde signification théologique. En effet, il signifie avec beaucoup de sobriété que Dieu est passé. Il signifie que désormais, il n'y a plus besoin d'aromates, car la mort a été vaincue. Il est à noter qu'ici, l'Évangile ne décrit pas la résurrection en elle-même. Il parle d'un tombeau vide. Cette annonce de résurrection est une merveilleuse nouvelle. Pourtant, dès l'instant où les femmes entrent dans le tombeau et voient le jeune homme, elles sont elles-mêmes réduites à l'état de pierre. Elles sont comme sidérées, muettes, paralysées par la peur. Dans ce récit, aussi incroyable que cela puisse paraître, la peur n'est non de la présence de la mort, mais de son absence. Il y a dans ce tombeau sans cadavre, on ne sait quoi de plus redoutable que la mort. Serait-ce la vie ? L'effroi de ces femmes rappelle la frayeur de la foule après le premier exorcisme de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. La crainte des disciples après que Jésus ait apaisé la tempête, ainsi que la peur à la transfiguration. Ainsi, la première réaction face à une réalité qui nous dépasse devant une manifestation divine est souvent la peur. En ce sens, l'être humain est contradictoire. Il aspire à ce que Dieu se manifeste, mais lorsqu'il le fait trop ouvertement, l'être humain est saisi par la crainte. Une crainte qui paralyse et qui rend muet. Mais face à cet effroi, le jeune homme offre aux femmes présentes dans le tombeau une parole réconfortante. N'aie pas peur. Cette parole proclame, cette parole de vie et de réconfort du messager divin ne va pourtant pas rassurer les femmes, ni même les réjouir d'ailleurs. On dirait qu'elles génèrent à elles seules leur propre peur. En effet, la peur habite ce passage tout entier. Cette peur est omniprésente. Cette peur est lancinante. Et la peur viscérale de ces femmes entre en résonance avec nos propres peurs. La peur de la vie qui se dérobe si souvent sous nos pieds. La peur de l'avenir, celui de nos enfants. La peur de la mort. Dans sa version initiale, l'évangile de Marc se termine à la fin du texte que nous venons de lire, c'est-à-dire au verset 8. Cet évangile se termine donc, de façon assez dramatique, il faut l'avouer, sur la peur des femmes. Et ce n'est pas très vendeur pour un évangile censé annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi un rédacteur appartenant probablement à la seconde génération de chrétiens a ajouté une finale qui reprend les récits de résurrection des trois autres évangiles, ce qu'on appelle la finale longue, avec donc l'ajout des versets 9 à 20. Pour ma part, je pense que le fait que l'évangile de Marc se termine sur la peur des femmes n'est pas une fatalité, car cela représente un encouragement pour chacun et chacune d'entre nous à assumer notre vie humaine avec ses fragilités et ses doutes. Ces femmes, c'est chacun, chacune d'entre nous, dans notre humilité la plus touchante, pétrie de notre être vivant, plein de bonne volonté, mais toujours limité par notre condition d'hommes et de femmes face au mystère divin qui nous dépassera toujours. L'évangile n'est pas une course à la performance. C'est une quête, un cheminement qui prend le temps de la respiration et de la halte. Où ce qui n'est pas possible aujourd'hui le sera peut-être demain ou plus tard. Si l'on vit dans la confiance et dans l'espérance de la bonne nouvelle. Chacun dans sa vie peut se retrouver face à un tombeau vide, trop souvent synonyme de désespérance, et être tenté d'abandonner. Je vous invite à présent à changer de perspective afin de considérer cette image du tombeau vide non plus comme un lieu de désespoir, mais comme le lieu de l'attente, du désir, de l'espérance et de la prière. Un lieu où nous pouvons recevoir en vérité une parole venue de Dieu, à condition de nous rendre disponibles au surgissement de l'inattendu. Ainsi, l'Évangile ne cherche pas à combler mon désir de Dieu, mais à le creuser, afin que je sois à même d'accueillir la grâce quand elle se présente. Mais la résurrection ne signifie pourtant pas que nous allons maintenant vivre dans un monde merveilleux, un monde rose, car toute vie sur terre est marquée par le deuil, la souffrance et les épreuves. La résurrection signifie plutôt que maintenant, la réalité des ténèbres ne doit pas m'empêcher de vivre. Et une bonne façon d'accueillir le message de la résurrection peut être aussi de s'interroger sur ses propres peurs, de les visiter dans la prière et de leur opposer la grande annonce qui est au cœur de l'Évangile. Christ est ressuscité. Le Christ nous déplace. Il n'est jamais là où on l'attend. Il est impossible de le capturer, de l'enfermer dans un tombeau. Christ est vivant et il nous invite à une rencontre. Il l'a affirmé au chapitre 14 de l'évangile de Marc. Après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. La Galilée est le pays des apôtres. C'est le pays de leur rencontre avec Jésus. Mais la Galilée, c'est aussi symboliquement le lieu de ma rencontre avec le Christ ressuscité. Une rencontre qui vient me rejoindre au cœur de mon histoire. Je vous propose à présent de cheminer ensemble dans la paix, l'amour, l'espérance et la confiance. De cheminer chacun, chacune et tous ensemble dans les pas du Christ ressuscité. Nous sommes invités à témoigner simplement, avec humilité, habités de la fragilité humaine qui est la nôtre. La foi en la résurrection du Christ ouvre un chemin de foi pour tout le monde, l'important n'étant pas l'arrivée, mais le chemin en lui-même, à l'instar des pèlerins d'Emmaüs. Et ce chemin porte un nom, Jésus-Christ. Amen.